7h51 sur RFI, notre invité ce matin, Brice Lalonde, bonjour.
Bonjour.
Brice Lalonde, vous êtes président de l'association Équilibre des Énergies, ancien ministre de l'Environnement, c'était sous François Mitterrand. 3 ans après la signature en grande pompe de l'accord de Paris sur le climat, la COP24, la grande conférence de l'ONU sur le changement climatique, s'achève à Katowice, en Pologne. Quel bilan en tirez-vous ?
C'est assez laborieux, les négociations. Pour l'instant, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de mettre en application l'accord de Paris. L'accord de Paris dit il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut arriver à zéro, en somme, avant 2100. Et pour ça, chacun des 195 États doit avoir son programme national de lutte contre le changement climatique. Mais l'accord de Paris ne dit pas ce qu'il faut qu'il y ait dans les programmes nationaux. Et donc, le Katowice, en ce moment, on négocie le mode d'emploi, c'est-à-dire dans chaque programme national, voilà ce qu'il faudrait y avoir, voilà comment il faut compter les émissions, il y a tant de gaz, voilà la date à partir de laquelle il faudrait commencer à compter, voilà comment on voit les progrès qui ont été réalisés d'un programme à l'autre. Tous les 5 ans, il faut que les programmes soient renouvelés et améliorés, etc. Donc voilà ce qui est en train d'être négocié. Mais attention, il faut pas tout attendre des COP. La COP la plus importante, c'était la COP de Paris. Tout le monde s'est mis d'accord. Donc le plus important maintenant, ce sont ce que les 195 pays font. C'est ce que la France fait. C'est la transition énergétique.
On avait quand même l'impression qu'en 2015, quand il s'agissait de faire des grandes déclarations de principe, tout le monde était d'accord. Mais maintenant qu'il faut aligner les mesures, mettre la main au portefeuille pour faciliter la transition énergétique des pays en voie de développement, il n'y a plus grand monde.
Oui, parce que la grande question, quand on a une menace planétaire comme le changement climatique, ou bien c'est la coopération internationale, tout le monde travaille ensemble, le multilatéralisme, ou bien c'est chacun pour soi. Et maintenant, nous voyons arriver les chacun pour soi. Monsieur Trump, c'est l'Amérique d'abord, chacun pour soi, le Brésil aussi. Donc, c'est un effort très important. Et c'est quand même un moment délicat de l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'on arrivera enfin à se mettre d'accord sur des questions planétaires ? Bon, alors, je crois que l'Union européenne, beaucoup de pays pour l'instant, quand même, sont toujours sur cette idée qu'il faut une coopération internationale, et c'est bien vrai, et vous avez à Katowice de nouveau une coalition pour une ambition plus grande, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni font partie.
Alors, au milieu de semaine, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, est venu tirer la sonnette d'alarme en Pologne. Il s'est inquiété de ce que les 200 délégations ne parviennent pas vraiment à surmonter leurs différences. C'est une question de vie ou de mort, rater cette opportunité compromettrait notre dernière chance de stopper le changement climatique. Vous êtes d'accord ?
Non. Je n'aime pas les histoires de dernière chance. Il y a toujours chance. On peut toujours faire mieux. Et si vous voulez, depuis que je suis écologiste, depuis 50 ans presque maintenant, j'entends toujours « Oh, il n'y a plus que trois semaines avant la fin du monde ». Non, il faut arrêter, la fin du monde est toujours reportée à une date ultérieure. Mais cela dit, c'est vrai qu'il faut aller vite. C'est vrai qu'il ne faut pas perdre de temps. Et il se passe énormément de choses que l'on ne connaît pas. Par exemple, dans cette COP, comme dans toutes les COP, il y a la partie officielle où vous avez les négociateurs des États qui laborieusement discutent sur la page 33, la ligne 24, etc. Et c'est épouvantable, c'est un travail de fourmi. Et puis à côté, vous avez la partie non officielle des COP. Avec là, il y a un bouillonnement créateur extraordinaire des associations, des États, des entreprises qui disent « Regardez ce que j'ai trouvé, regardez, on a une expérience extraordinaire ». Et donc, la grande difficulté, c'est toutes ces extraordinaires trouvailles, découvertes, innovations, il faut les mettre à l'échelle de la planète. Et il faut financer. Alors, à Katowice, quand même, il y a des bonnes nouvelles. Il y a beaucoup plus d'argent sur la table. Et ça, c'est très important. La Banque mondiale a doublé. Beaucoup d'États disent, je mets plus d'argent. Et on va arriver aux 100 milliards. Parce que les gens s'inquiétaient de savoir si on allait y arriver.
L'accord qui avait été annoncé en 2015.
Exactement. Pour aider les pays en développement. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui disent, mais attendez, mais moi, je ne sais même pas comment faire le compte des émissions de gaz à effet de serre. J'ai pas d'experts. Comment vous pouvez m'aider, etc. Et beaucoup de pays, le problème numéro un, ce sera pas simplement la réduction de la pollution. Ce sera l'adaptation. Mais comment je fais? La mer est en train de monter. Mes cultures ne sont pas adapté à 1 degré de plus ou 2 degrés de plus de température, aidez-moi à m'adapter. Donc l'adaptation devient très très importante aujourd'hui. C'est clair quand même, nous le savons tous, on a déjà pris 1 degré supplémentaire. Les scientifiques viennent de faire un rapport qui s'appelle 1,5 degré, ça veut dire en réalité 0,5 degré, il faudrait éviter d'aller au-delà. Bon, on sait qu'on n'y arrivera pas, pour l'instant, excusez-moi de le dire, donc il faut s'adapter. Une partie très importante de l'action maintenant des États, c'est comment on s'adapte. Comment est-ce que les villes du littoral, regardez en France, toutes les villes du littoral, mais regardez surtout en Afrique, regardez en Asie, toutes ces villes qui sont forcément elles vont être noyées en quelque sorte par la montée inexorable du niveau de la mer. Donc il y a un effort d'adaptation.
Ça veut dire qu'on aura des réfugiés climatiques en plus grand nombre qu'on a déjà aujourd'hui d'ailleurs.
Ah, mais sans aucun doute, il y aura forcément des gens qui ne pourront plus vivre là où ils vivaient avant parce qu'il fera trop chaud ou parce qu'il n'y aura plus d'eau. La question de l'eau est très importante, on la néglige souvent, mais le premier impact du changement climatique, c'est une transformation très importante du cycle de l'eau. Il va y avoir plus de sécheresse et en même temps, comme il y a plus d'évaporation, il y a des quantités torrentielles, si vous voulez, qui vont tomber ça et là, provoquant des inondations. Bon, on le sait tout ça. Donc il faut s'adapter, il faut travailler. Mais évidemment, il va falloir arriver à appliquer l'accord de Paris, c'est-à-dire arriver à zéro. Et zéro émission, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que maintenant, il faut se passer de brûler du charbon, du pétrole ou du gaz naturel. Alors évidemment, comme ces hydrocarbures ont fait la richesse du monde depuis 3 siècles, ce n'est pas facile. C'est évident que c'est pas facile. Simplement, il faut travailler. Et je suis très très content de voir que les jeunes ont continué à manifester. Ils ont manifesté aussi avec les gilets jaunes parce que l'écologie doit être sociale. C'est évident. Il faut que tout le monde contribue et il ne faut pas que ça coûte trop cher à certains par rapport à d'autres.
Justement, vous évoquiez tout à l'heure Donald Trump, qui a retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Il a eu une lecture très personnelle, lui, du mouvement des Gilets jaunes en France. Il y a vu la preuve de son rejet par les peuples, c'est-à-dire les peuples ne veulent pas payer pour la transition écologique.
Alors, le président Trump dit ça, mais son administration a rendu public un rapport quelques jours avant en disant ça coûte des milliards et des milliards le changement climatique aux États-Unis. Quand on pense à ce qui s'est passé à Houston où tout a été inondé pendant des semaines et des semaines, quand on pense, moi j'étais à New York quand il y a eu l'ouragan Sandy, la mer est montée de 4 mètres, vous vous rendez compte à New York et tout a été noyé, des gens ont perdu la vie, etc. Tout ça, ça coûte horriblement cher ces catastrophes et les assurances le savent bien parce que maintenant elles sont en train de dire oh là là, je n'assure plus contre le changement climatique, ça coûte trop cher. Et donc le président Trump, il peut dire ça, mais en même temps, on voit bien que il a tort et que sa propre administration le dément. Regardez ce qui s'est passé en Californie avec les incendies. Et donc les Américains, ils sont sortis de l'accord de Paris, mais comme ils avaient déjà signé pour être dedans sous Obama, il faut attendre 4 ans pour sortir. Donc pour l'instant, il y avait aussi des Américains, Katowice, parmi les négociateurs.
Alors vous évoquez la transition écologique, il ne faut pas complètement déconnecter de la question sociale, c'est toute la problématique des gilets jaunes. Comment faire dans ce cas-là?
Écoutez, il y a beaucoup d'argent qui est dévolu à la transition énergétique, également en France. Une grande partie de cet argent va à subventionner les énergies renouvelables, mais les énergies renouvelables, qui sont très importantes, elles sont maintenant quasiment, elles sont rentables. Donc c'est peut-être plus la peine de les subventionner autant et peut-être qu'une partie de cet argent pourrait plutôt aller à aider chaque Français à s'équiper mieux, à changer de voiture ou à avoir une chaudière différente ou à isoler sa maison. Donc je pense que ce qui est devant nous maintenant, c'est affecter un peu plus intelligemment l'argent de la transition.
Alors vous évoquiez au moment de la démission de Nicolas Hulot, vous avez tweeté « Dommage, l'Europe est le continent où l'environnement est le mieux protégé, la France l'un des pays les plus vertueux en matière d'émissions polluantes, Macron l'un des chefs d'État les plus en pointe pour protéger le climat ». Vous êtes toujours d'accord ?
Oui, je suis toujours d'accord avec ça. L'Union européenne a été un pionnier depuis très longtemps. Alors l'Union européenne vient de rendre public, alors c'est toujours en 2050, les gars, ça ira mieux. Donc ils ont fait un rapport pour dire qu'en 2050, on va aller à zéro carbone pour l'Europe. Et puis c'est vrai que Macron, c'est un des rares chefs d'État quand même à dire ce qui compte c'est quand même la planète, il faut continuer. Donc tout ça c'est vrai qu'on vit beaucoup mieux en France que dans beaucoup d'autres pays. Bon, il faut le reconnaître. Alors il y a toujours des choses mieux à faire hein, mais quand même allez, on est content d'être français et de vivre en France.
Merci Brice Lalonde d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes ancien ministre de l'Environnement.